Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Vous pouvez prendre place et ouvrir un livre que 40 auteurs différents ont écrit sur 1500 ans et que Dieu a préservé la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 1 et nous lirons les 18 premiers versets. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. » Jusqu'ici, la première lecture. Je vous invite à faire deux autres lectures, c'est chaque fois un verset que vous connaissez peut-être par cœur. Le premier, c'est Romains 8, 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Waouh. Chaque fois que je parle de ce texte, je parle du petit mot « maintenant », mais je ne vais pas le faire maintenant, enfin je viens de le faire. Vous pourrez y réfléchir. Deuxième verset, que vous connaissez peut-être par cœur aussi, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous avons les deux voies qui sont présentées ici dans ce seul verset, Jean 3, 36. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Peut-être avez-vous déjà fait des puzzles. Et si vous avez des très petites pièces avec des couleurs très semblables et que vous n'avez pas l'image finale, c'est extrêmement, voire presque impossible de le faire. Eh bien, face à la Bible, si nous n'avons pas l'Esprit Saint qui nous donne l'image de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la comprendre. Et nous saisissons encore une fois aujourd'hui cette grâce de compter sur l'Esprit Saint pour comprendre sa parole. Je vais directement vous demander d'utiliser votre imagination. Imaginez que ce matin, à la sortie de votre maison, une voiture s'arrête et vous embarque et vous amène loin, à l'autre bout du monde, vous plaçant dans une petite maison sans électricité ni eau courante, avec les uniques choses que vous avez sur vous. ça changerait votre vie. Surtout qu'on vous laisserait là et qu'on partirait. Vous devriez commencer peut-être par voir s'il y a d'autres personnes qui habitent par là. Comment allez-vous vous en sortir? Faire peut-être des petits travaux pour survivre. Tant de choses qui vont changer. Et pourtant, vous resterez la même personne. Votre identité n'aura pas changé. Vous aurez toujours les mêmes parents. Votre passé est venu avec vous. Et là, on vous a déposé, ce passé est venu là aussi. Le tableau de votre vie, que vous avez peut-être bien souvent mal dessiné ou raturé, ou même franchement abîmé, n'a pas changé. Eh bien, l'Évangile, la bonne nouvelle, l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu lui-même sur terre, ne te change pas de lieu géographique, ni de corps physique, mais l'Évangile change ton cœur. L'Évangile change ton cœur, qui est la racine et la commande de ta volonté, de tes sentiments, de tes pensées. L'Évangile change ton cœur, qui est à la racine et aux commandes de ta volonté, de tes sentiments, de tes pensées. L'Évangile amène la purification. L'Évangile amène la vie. L'Évangile amène une espérance totalement fiable. L'Évangile influence tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi nous pouvons dire que l'Évangile change tout. Vous l'avez compris pour ceux qui étaient déjà là le dernier dimanche du mois passé, que nous avons commencé une série qui s'intitule « L'Évangile change tout ». Et nous continuons cette série en nous inspirant des différents thèmes que nous trouvons dans le livre de Jackel Crow qui explore les implications de ce changement extraordinaire qu'apporte l'Évangile dans une vie. L'Évangile change ton identité. Tu n'es plus le même. Tu es né de nouveau, dans une nouvelle famille. Tu vis pour un nouveau royaume. Ton passeport spirituel est celui du ciel. Ta patrie a changé. Et cela se manifeste petit à petit dans ta vie comme une plante qui grandit et qui donne son fruit. Le changement est radical. Jésus-Christ devient le centre, le modèle, le but de ta vie. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons explorer un autre aspect. L'Évangile change ton histoire. L'Évangile change ton histoire. Et nous allons explorer trois aspects que nous pouvons discerner dans Jean 1. Voilà pourquoi nous avons lu ce texte tout à l'heure. Nous avons ces trois aspects dans ce texte. Le premier, c'est que tu vis dans une grande histoire. Ton histoire, en fait, elle est vécue dans une grande histoire. Ce qu'on verra dans les versets 1 à 3 du chapitre 1 de Jean. Deuxième aspect, nous verrons que un héros est entré dans l'histoire. Un héros est entré dans l'histoire. C'est les versets 10 et 11 et 14. Et troisièmement, nous verrons l'impact dans ton histoire. Et c'est les versets 12 et 13. Commençons donc par le premier aspect. Tu vis dans une grande histoire. Il y a un lien entre notre histoire avec l'histoire avec un grand H, si vous voulez. Chacun d'entre nous vivons notre histoire plus ou moins longue à nos yeux dans un contexte d'une grande histoire. Nous ne venons pas de nulle part. Par exemple, je suis né dans le Jura, dans une famille avec un père qui était descendant des Mennonites. C'est parce qu'en fait, les Mennonites ont été pourchassés et accueillis dans ces terres que je suis né là-bas. Et mon histoire fait partie d'une plus grande histoire. Les Mennonites sont des chrétiens descendants d'Anabaptistes qui ont suivi, pour les Mennonites, l'enseignement de Simon Mennos, qui voulait revenir en fait à la Bible avec une vision pacifique. Des Anabaptistes qui sont apparus au départ, aux côtés de Zwingli, le réformateur, afin d'aller plus loin au niveau de la réforme pour que ce soit que ceux qui confessent la foi qui se fassent baptiser. Mais cela est sorti en fait de la réforme, qui était en fait ce retour à la parole de Dieu qui avait été mise de côté par l'Église romaine, qui avait été mise en place petit à petit depuis l'empereur Constantin. Et avant cet empereur, les chrétiens étaient persécutés. eux qui suivaient Jésus-Christ. Dieu est homme dans son humanité. Et dans son humanité, il était descendant d'Abraham, qui lui-même était descendant d'Adam. Notre histoire fait partie d'une plus grande histoire. Et nous sommes influencés par cette grande histoire. Nous en recevons les bénéfices et les complications. Notre histoire fait partie d'une plus grande histoire. Nous sommes influencés par cette grande histoire, nous en recevons les bénéfices et les complications. Revenons donc au début de l'histoire, comme Jean 1 nous le propose. Relisons les versets 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Il y a quelques milliers d'années, alors que rien d'autre que Dieu n'existait, le Dieu souverain, totalement indépendant, a décidé de débuter une histoire. Le Créateur a tout fait par la parole. Il a dit, les choses sont venues à l'existence à partir de rien. Et cela, c'est uniquement Dieu qui peut le faire. Et l'homme ne peut pas le comprendre. En 6 jours, Dieu a tout créé et a terminé par l'homme et la femme créés à son image. En 6 jours, Dieu a tout créé et a terminé par l'homme et la femme qu'il a créés à son image. L'homme et la femme complémentaires dans une relation totalement harmonieuse, comme tout le reste de la création. Hommes et femmes complémentaires dans une relation harmonieuse. Imaginez, c'est pas facile à imaginer. Comme tout le reste de la création. La création n'a pas été faite pour l'homme. C'est important de comprendre ça. La création a été faite pour la gloire de Dieu. Et l'homme, seule créature créée à l'image de Dieu, a une responsabilité de gestion de toute la création. Jeudi passé, une dame me demandait au stand, pourquoi Dieu a-t-il créé les animaux? Elle pensait que j'allais dire pour l'homme. En fait, elle attendait cette réponse pour me montrer que l'animal se débrouille bien sans l'homme, et puis qu'il a autant de valeur que l'homme, sinon plus peut-être. Mais je lui ai simplement dit que les animaux étaient créés pour la gloire de Dieu. Et que l'homme a la responsabilité de gérer la création d'une façon qui manifeste la gloire de Dieu. Adam et Ève ont été créés sans péché. Il les a créés libres avec une seule règle, ne pas manger du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous avez déjà vu une feuille blanche avec un point noir? Qu'est-ce qu'on voit? La feuille blanche? Non, on voit que le point noir, évidemment. La création tout entière est à la disposition de l'homme. Des milliers de plantes, d'arbres, de fruits, de légumes étaient à sa disposition. La règle que Dieu avait donnée à l'homme ne le limitait pas en voyant tout ce qu'il avait à disposition. Ça ne limitait pas un seul arbre. Mais non, il y en avait tellement. Mais Dieu avait donné cette règle pour lui permettre d'avoir un choix. Et comme le dit bien Jack Elcrow dans son livre, dès le début de l'histoire, Dieu s'est montré très clair. Obéissez-moi et vous serez heureux. Obéissez-moi et vous serez heureux. Désobéissez-moi et les conséquences seront terribles. Désobéissez-moi et les conséquences seront terribles. Parce que ce que Dieu demande, c'est toujours bon. Selon lui. Et puis lui, ben, il est parfait. Alors combien de temps nos premiers parents ont-ils joui des milliers d'arbres et des plantes dans le jardin? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que l'histoire a été gâchée. Voici ce que nous rapporte Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « mais vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à discerner, donner du discernement. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Satan, une créature de Dieu qui s'était rebellée contre lui, va conduire les humains, image de Dieu, à douter de Dieu. Ce menteur de première classe suggère que Dieu ne veut pas leur bien et qu'ils n'ont pas intérêt à lui obéir. Ce trompeur leur promet la liberté, alors qu'Adam et Ève étaient totalement libres. Hein. Mais il leur promet la liberté. Il leur promet la place même de Dieu. Et ce vil escroc savait que si Adam et Ève l'écoutaient, ils deviendraient leur prince. Il cherchait à les attraper dans le filet de son affreux royaume du mensonge, du meurtre, du vol, de l'infidélité, de la jalousie, de l'envie, de la rébellion et du chantage. Adam et Ève, qui étaient au début de la grande histoire avec un grand H, hein, allaient en fait influencer toute l'histoire. Ces premiers humains ont chuté ensemble. Et c'est vrai que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Nul ne peut vraiment le décrire, mais nous savons qu'ils venaient de tirer la prise de la communion divine en rejetant la règle de Dieu. Je pourrais le faire maintenant, paf, toutes les lumières s'éteignent. Le sentiment de honte qu'ils n'avaient jamais eu. Ils n'avaient jamais eu un seul sentiment de honte. Jamais. Le sentiment de honte qu'ils n'avaient jamais eu les saisit tout à coup. La peur qu'ils n'avaient jamais connue les fait fuir. La mort qu'ils n'avaient jamais ressentie les remplit de terreur. Vous savez, ce n'est pas simplement une expérience qu'ils ont vécue. C'est un véritable bouleversement. C'est pas juste une expérience qu'ils ont vécue là, en mangeant un fruit, non. C'est un bouleversement de l'histoire de l'univers qui s'est passé à ce moment-là. Le représentant de Dieu sur terre, le gestionnaire de toute la création qui fait un bras d'honneur à Dieu en faisant la seule chose qu'il avait interdite. La seule chose qu'il avait interdite. Ils ont ainsi soumis toute la création, qui, puisqu'ils en étaient les gestionnaires, ainsi que tous leurs descendants, à la malédiction du péché. C'est en fait l'origine de tout le mal dans le monde. Si quelqu'un vous pose la question « Pourquoi tant de mal ?» Mais nous avons la réponse. C'est parce que l'homme a choisi de ne pas obéir à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Il l'avait interdit. Mais c'est l'homme qui a librement choisi de s'y jeter. C'est le désastre. Et nous constatons cette même notion aussi de nos jours. Lorsqu'une personne qui a beaucoup de biens, quelqu'un de très riche, qui perd tout par excès, qui dépense tout et qui laisse des dettes à ses héritiers. Alors vous allez me dire que l'héritier peut refuser l'héritage. Alors oui, bon, légalement, selon mes souvenirs, ça me semble que c'est possible. Mais s'il peut refuser la dette, cela ne lui redonne pas la fortune que les parents ont perdue. Nous avons perdu le cœur sans péché. Oui, en quelque sorte, nous pouvons refuser la dette personnelle de la condamnation pour leur choix. Mais nous ne recevons quand même plus un cœur sans péché. Et nous allons donc commettre le péché et être coupables devant Dieu. Quel gâchis! Mais c'est cette histoire gâchée, c'est dans cette histoire gâchée que nous vivons notre histoire. C'est dans cette histoire-là. N'y a-t-il donc plus d'espoir? Eh bien, l'évangile selon Jean nous indique que la parole, Dieu lui-même, va entrer dans l'histoire avec un grand H. C'est notre deuxième point. Un héros est entré dans l'histoire. On va relire les versets 10 et 11 de Jean 1 et le verset 14. Elle, quand il dit elle au verset 10, il s'agit de la parole qui est appelée lumière. Hein. Elle était entrée dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venant du Père. L'auteur de l'histoire entre lui-même dans l'histoire. En fait, dès le début, Dieu avait annoncé qu'il donnerait une descendance à Ève qui vaincrait l'ennemi. Abraham est un descendant de Noé qui est un descendant d'Adam et Ève. Et Dieu a préparé sa venue en choisissant la descendance d'Abraham pour en faire un peuple qui devait être son représentant sur terre. Comme Adam aurait dû être représentant de Dieu sur terre, eh bien Dieu place maintenant un peuple, l'Israël de l'Ancien Testament, pour cette tâche. Et il y place des prêtres qui prient Dieu, hein, au nom de son peuple et en faveur du peuple. Il y place des prophètes qui préviennent le peuple des conséquences des désobéissances ou des bénédictions de l'obéissance. Et il y place des rois qui sont censés protéger le peuple et le conduire dans la justice. Et comme Jackel le dit dans son livre, ces diverses fonctions rappelaient une promesse constante. Un meilleur prêtre va venir. Un meilleur prophète va venir, un meilleur roi va venir, le héros qui va tout rétablir est en route. Parce que tous ces prophètes n'étaient pas parfaits encore. Mais il y en a un qui vient, qui est meilleur. En fait, l'auteur, Dieu lui-même, est entré dans l'histoire et plus rien n'allait être pareil après sa venue. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé. L'auteur de l'histoire, Dieu lui-même, est venu dans cette histoire. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu sur terre, c'est le point central de toute l'histoire de l'humanité. Et le peuple, accompagné de prêtres, de prophètes et de rois, qui devait, comme Adam, vivre et manifester les attributs de Dieu sur terre, a également échoué, comme Adam. Mais, comme Adam a une descendance, ce peuple était le berceau dans lequel Dieu a choisi de naître en tant qu'homme. Ce peuple qui a échoué, comme Adam a échoué, mais il a une descendance qui est devenue un peuple. Ce peuple a échoué, mais ce peuple était le berceau dans lequel Dieu lui-même a choisi de naître en tant qu'homme. Le Dieu éternel qui s'est associé à l'humanité est devenu un homme, et c'est Jésus-Christ. Et ce héros, c'est un héros en fait, eh bien va vivre le bon scénario. Hein, Jésus-Christ va vivre ce que ni Adam, ni Israël n'a vécu. Il n'a jamais enfreint aucun commandement de Dieu. Il a toujours fait la joie de Dieu. Toujours. Jésus-Christ va vivre ce que le peuple choisi n'a pas vécu, étant le prêtre parfait, le prophète parfait, le roi parfait. Et avec ce bon scénario, il va donner sa vie pour sauver son peuple. Jésus-Christ a vécu le bon scénario qui était prévu au début de l'histoire. C'est vrai qu'une question m'est déjà venue, soit qu'on me l'a posée ou que je me suis posée aussi. Pourquoi n'est-il pas venu plus vite? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Mais je peux vous dire qu'en regardant l'histoire rapportée dans l'Ancien Testament, que Dieu a préparé cette venue. Il l'a préparée avec cette illustration du récit de la libération de l'esclavage avec une référence constante à cette œuvre. Tout l'Ancien Testament fait référence à la sortie d'Égypte. C'est l'œuvre de rédemption. C'est ce qui va, et quelque part, il annonce qu'il va le faire. Et dans tout l'Ancien Testament, il a déjà dit ce qu'il allait faire et il a parfaitement accompli tout ce qu'il avait annoncé afin que nous sachions que seul Dieu pouvait faire cela. Seul Dieu pouvait faire cela. Donc je peux pas vous dire pourquoi il a pris ce temps. Ce que je peux vous dire, c'est que ce temps a été utilisé pour préparer sa venue, afin que nous soyons certains que c'est Dieu lui-même qui agissait. Et non seulement Jésus a vécu le bon scénario, mais il est venu payer la dette du gâchis que personne ne pouvait payer. Jésus n'a dit que la vérité, il est la vérité, le chemin et la vie. Vous connaissez Jean 14, 6. Il est le prophète parfait. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Jésus s'est offert lui-même en devenant l'agneau de Dieu pour réparer ce que l'humanité avait brisé. C'est le prêtre parfait. Jésus est venu combattre le mal, vaincre la mort, comme le roi qui vient conquérir son royaume. Il n'a pas reculé devant la mort pour sauver son peuple. C'est un roi parfait. Et Jésus, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. On l'a fêté dimanche passé, mais chaque dimanche, en fait, on se rappelle de cette résurrection. Et il commence ainsi l'histoire renouvelée. L'histoire avec un grand H renouvelé qui se prolongera jusque dans l'éternité. Jésus va revenir pour établir son nouveau jardin d'Éden, sa nouvelle Jérusalem, sa nouvelle terre, son royaume éternel pour tous ceux qui quittent le royaume du menteur pour se tourner vers lui qui a vaincu le menteur et la mort et ainsi réformé l'histoire. Là, Jésus va revenir pour établir son nouveau jardin d'Éden, sa nouvelle Jérusalem, sa nouvelle terre, son royaume éternel pour tous ceux qui quittent le royaume du menteur pour se tourner vers lui qui a vaincu ce menteur, qui a vaincu la mort et qui a ainsi réformé l'histoire avec un grand H. Et en quoi cela change-t-il quelque chose pour toi? Eh bien, c'est notre troisième point. L'impact dans ton histoire. Jean va de nouveau nous guider. Lisons les versets 12 et 13. Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Comme nous l'avons vu, lorsque nous naissons, nous entrons dans l'histoire avec un grand H. Nous sommes totalement dépendants et nous vivons les conséquences de nos premiers parents et de tous ceux qui sont venus ensuite d'ailleurs. Et nous méritons, tout comme nos premiers parents, la condamnation. Car tous, nous avons choisi de ne pas obéir à tout ce que Dieu demande. Que celui qui a obéi à tout ce que Dieu demande se lève. Bon, je prends aucun risque. Ou bien le risque de voir quelqu'un qui s'auto-justifie, qui ne se rend pas compte qu'il ne vit pas selon les commandements de Dieu. Et le cours normal de notre histoire, c'est donc d'être jugé et condamné à mort éternellement. Ça, c'est le cours normal. Hein. Notre histoire, qui est dans cette grande histoire, le cours normal, c'est d'être jugé et condamné pour la mort éternelle. Mais bon, on a vu qu'il y a un héros qui est entré dans l'histoire. Je fais une petite parenthèse, mais juste pour vous dire, je suis intimement convaincu que tous les héros qu'on voit, style Superman, James Bond, Neo et compagnie, hein, ça vient de cette même notion qu'on a besoin d'un héros qui sauve le monde. C'est ancré. Mais tous ces héros font vraiment pâle figure devant Jésus-Christ. Parce que lui, il a capacité de payer une dette éternelle et de transformer les cœurs, ce que aucun de ses héros ne peut faire. Il peut juste aller taper ceux qu'on dit être les méchants, mais ils ne peuvent pas transformer les cœurs. Ils ne peuvent pas payer une dette éternelle. Et donc, par son œuvre, Jésus-Christ donne la grâce à ceux qui se repentent. Jésus-Christ donne la grâce à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croit en lui. Jésus-Christ, par son œuvre, donc donne la grâce à tous ceux qui se repentent de leurs péchés de croire en lui, de modifier le cours normal de son histoire et d'être acquitté lors du jugement. Acquitté lors du jugement. C'est ce que notre héros fait. Il nous permet d'être acquitté. La dette est payée et nous bénéficions de toutes les richesses de notre roi. Non seulement il paye notre dette, mais il nous enrichit de tout ce qui lui appartient. En fait, c'est les deux fins d'histoire possibles. Une fin d'histoire, c'est le cours normal. Un héros est venu, mais quelque part, bon, ok, il est sympa. Mais ça ne touche pas. Ok, il s'appelle Jésus-Christ, il est venu sur Terre. Est-ce qu'il est venu ou pas? Bon, quand même, voilà, on est en 2019 après Jésus-Christ, c'est peut-être un lien. Mais ça, c'est le cours normal, hein. et on arrive dans le jugement. Ou bien se dire, attends, mais c'est l'auteur lui-même de l'histoire qui est venu là accomplir quelque chose d'absolument fantastique pour que je puisse être sauvé pour l'éternité. Et plus encore, évidemment. Souvenez, Jean 3, 36. On a vu tout à l'heure. On voit les deux voies ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne s'en confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors si tu n'es pas responsable de l'histoire avec un grand H, pouvez-vous changer l'histoire de l'humanité? Non. Mais tu es participant de ton histoire. Tu as une responsabilité. Nous avons vu ce matin que le souverain créateur a commencé l'histoire sans péché. C'est important à comprendre ça. L'auteur de l'histoire a commencé un monde sans péché. Tout était très bon. En fait, c'est l'homme, c'est Adam et Ève en l'occurrence, qui ont tout gâché. Ils n'ont pas vécu le bon scénario. Ils ont placé toute l'humanité sous la malédiction du péché. Et parce que leur choix avait des conséquences pour leurs descendants, leur histoire faisait partie de la grande histoire et ils en étaient le début. En fait, on peut en vouloir à Adam et Ève. Tu dis, mais quand même, hein, c'est de leur faute en fait qu'on est dans cette situation. Vous pourriez même peut-être dire, moi j'aurais fait autrement, évidemment. Cette phrase que je viens de dire vient d'un cœur qui est touché par le péché. Celui que nous avons reçu à notre naissance. Et c'est justement ce que notre cœur pécheur suggère. C'est de sa faute! Ça a commencé avec Adam, hein. C'est pas moi, hein. C'est sa faute. Non, c'est inutile de se révolter contre nos premiers parents, qui ont amorcé cette dette colossale, cette séparation d'avec Dieu, qu'ils ont tiré la prise, que vous pouvez plus remettre. Mais ça sert à quoi de se révolter contre eux? Franchement, ça sert à quoi? Ben, à vous rendre malheureux. Parce que vous pouvez pas changer. Ça vous rend malheureux. Mais il y a un héros qui est venu, je vous ai dit tout à l'heure. Un héros est venu pour payer cette dette, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous donner l'accès à cette prise inatteignable. Ah, on peut remettre l'électricité, là. Hein? Et cela passe par le fait d'avoir confiance, de le croire, de reconnaître ses torts devant Dieu et de croire qu'il a pris tout ça pour que je puisse être sauvé. Et tac, on a remis la prise. Le choix de suivre ou non le héros qui est entré dans l'histoire, c'est ta responsabilité dans ton histoire. Le choix de suivre ou non le héros qui est entré dans l'histoire, c'est ta responsabilité dans ton histoire. Et c'est ce qui déterminera la fin de ton histoire. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle du héros qui a tout payé et tu peux le suivre. Quelles sont les conséquences dans nos vies? Vous rendez-vous compte d'une chose? Alors, voilà, moi j'ai eu le privilège d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir, hein. Vous devez aller assez vite dans la réflexion. Mais j'aimerais vous aider quand même un tout petit peu. Vous rendre compte, l'évangile a opéré un changement dans l'histoire avec un grand H. Dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien au monde qui a pu changer l'histoire comme l'évangile. Rien. Aucune situation. Rien. Rien d'autre n'a apporté ce changement dans toute l'histoire. Rien ne peut changer les cœurs. Rien ne peut effacer les péchés. Rien ne peut donner la vie éternelle autre que Jésus-Christ. Et c'est l'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile est tout simplement unique, exceptionnel, extraordinaire. Jacques dit dans son livre que l'évangile provoque un basculement complet. L'évangile provoque un basculement complet de notre univers. Un changement radical de nos paradigmes, c'est-à-dire nos façons de penser. Un changement radical de nos paradigmes. Rien ne peut plus être pareil dès que tu commences à y croire. Ton histoire change. Et ce n'est pas ton perfectionnisme qui te conduira au ciel. Ce n'est pas ta capacité d'argumentation qui te sauvera. Ce n'est pas ta nonchalance qui t'évitera le jugement. Dieu ne sauve pas parce que nous sommes à la hauteur. Et parce que lui est à la hauteur. Un livre, Une vie de défi, coécrit par Nicolas Blocher et Benjamin Hagen, reprend les paroles d'un chant qui exprime bien cela. J'aime bien. Je vais vous le lire deux fois parce qu'il faut un peu réfléchir. Donc je suis sauvé, non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que tu fais. On parle à Jésus-Christ. non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que tu fais. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que tu es. Non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce que tu fais. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que tu es. Et certains diront, et je l'ai eu la semaine passée, j'ai un téléphone, et puis quelqu'un qui discutait avec des musulmans a reçu cette question, ou bien plutôt cette attaque, disons-nous, qui dit « Ok, Dieu pardonne hein, quand tu lui donnes pardon. » Alors, quelle est ta motivation de vivre bien? De toute façon, il va te pardonner tout le temps. Évidemment. T'as aucune motivation à vivre de la manière qui est juste. Il pardonne tout le temps. À ceci, nous répondons que l'Évangile nous montre la gravité du péché. Le péché a tué notre héros. Le péché est grave. C'est pas quelque chose qui n'est pas. Il a tué notre héros. L'Évangile nous indique également que nous pouvons avoir qu'un seul maître et que nous allons obéir à celui qui nous sauve. Et enfin, l'Évangile nous donne l'assurance que nos efforts pour devenir toujours plus saints, pour manifester notre amour envers celui qui nous sauve, ne sont pas vains. Puisqu'il nous pardonne, puisqu'il nous fait grâce, c'est pas vain, ça vaut la peine de vivre bien. Alors que ceux qui ne connaissent pas cette grâce, qui ne savent jamais s'ils sont sauvés ou non, comme c'est le cas des musulmans, ils savent jamais s'ils en ont assez. Alors pensez-vous vraiment que vous pouvez avoir une motivation à toute épreuve si vous ne savez pas si votre histoire va effectivement changer ou pas? Celui qui sait qu'il est pardonné aura une motivation beaucoup plus grande de vivre par amour pour celui qui lui a pardonné que celui qui ne sait pas si son histoire va changer ou non. Pour celui qui croit en Jésus-Christ, ce n'est plus une question. Son histoire a changé. Il a une nouvelle identité qu'il manifeste clairement dans sa vie. Il a quitté l'arbre généalogique de la malédiction et par adoption, il est entré dans l'arbre généalogique de la bénédiction. C'est fait. L'Évangile change ton histoire si tu saisis l'Évangile. Si tu saisis l'Évangile. Et si tu as déjà saisi l'Évangile, eh bien alors vis ton histoire changée. Et réjouis-toi. Réjouis-toi de la fin de l'histoire que tu connais. Et si tu ne reconnais pas que ton histoire normale te mène au juste jugement, que tu ne crois pas que Jésus a pris ce jugement sur lui, j'aimerais quand même juste t'avertir qu'il y a une horrible fin de ton histoire devant toi. Et je ne peux que te supplier de te tourner vers ce héros qui peut changer ton histoire. Nous allons prier. Seigneur éternel, c'est une horrible pensée de voir une personne ici devant moi qui serait perdue pour l'éternité. Seigneur, je te prie vraiment d'agir dans ta grâce, de toucher les cœurs. Je te remets ceux qui s'en foutent, qui sont insouciants. Ils sont perdus sans toi. Je te prie, Seigneur, de toucher leur cœur. Je te prie, Seigneur, pour eux, que tu agisses dans ta grâce. Et je veux tourner mon regard vers toi, parce que c'est que vers toi que je peux être rassuré. J'aimerais te remercier, Père, pour tous ceux qui te connaissent aussi ici parmi nous. Et j'aimerais te prier que nous puissions nous réjouir. Mais nous réjouir non pas simplement avec un petit sourire de coin, mais nous réjouir avec un cœur rempli de cette joie de savoir que tu nous as sauvés. Que la fin de notre histoire est juste extraordinaire. Et que même dans l'histoire que nous vivons maintenant, eh bien tu ne nous laisses déjà pas seuls. Nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer, parce que tu es venu dans cette histoire. Tu as accepté de t'humilier, de devenir un homme comme nous, alors que tu es un Dieu illimité, totalement indépendant. Ne permets pas, Père, que cette action que tu as faite soit vue comme Quelqu'un qui fait, je sais pas, un 100 mètres en 10 secondes. Non, Seigneur, que cette action soit vue comme étant quelque chose de tellement extraordinaire que ça vaut la peine d'y penser tout le temps. Oh, donne-nous la joie de répondre à ton œuvre par un amour sincère, où nous voulons grandir, t'aimer davantage et partager autour de nous ce que tu as fait pour nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.